L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Salut, c'est Nico.
Salut, c'est Clément.
Et vous êtes ?
Chez Master Jukebox.
Et le barboteur. Le podcast qui ne passe pas que du vent. Et il est où Marco ?
Je crois qu'il est dans sa cuisine encore.
Ah merde.
Merci de nous recevoir.
On est très contents d'être là. Jukebox Brasserie, un an. L'inauguration, comme j'aimais l'appeler, ça te va comme terme?
Ouais, c'est parfait, c'est, cool. C'est un petit peu ça en plus, une inauguration qu'on n'a jamais faite encore,
ouais.
Voilà, c'était le bon moment pour faire les deux. Quoi.
Ok, cool. Donc ce soir c'est la fête, on boit, on écoute de la musique, il y a des food trucks,
ouais, on va c'est se faire ça. Plaisir. C'est un petit format, non, c'est 12-22 heures,
ouais.
Avec cette musicale toute la journée, il y a trois concerts dans des styles différents, on commence avec eux. Un concert d'un gars qui fait tout en même temps, il chante, il joue.
Un homme orchestre.
Ouais, exactement, Ben Orchestra. Ensuite, on va enchaîner avec le groupe de rock qui est sur la scène. Et on finira par un collectif de DJ d'Angoulême qui s'appelle La Ferveur, avec qui on a fait une collab récemment autour de leur son.
Super, voilà. Oui, j'ai vu la canette, effectivement. Pas encore goûté, cependant. Donc, on fête les 1 an. Mais j'imagine que ça fait un bout de temps que c'est réfléchi, ce jukebox. Ça a commencé quand?
Ouais, ça a commencé il y a pas mal de temps. Moi, j'étais avec Loïs, on a commencé en Brassam il y a 6-7 ans maintenant.
Ouais.
Moi, j'étais déjà dans l'alcool, mais pour une maison de cognac.
Ok.
Mais à vrai dire, la bière, ça a toujours été ma passion, et puis leur passion aussi. Et du coup, qui fait bien sur les petites sessions de Brassam, essayer des choses. Très vite, on est tombé vite dans l'expérimentation. Mm-hmm. Et toujours plus de Brassam, toujours plus de toujours moins de place du coup aussi à la maison. et après, moi, avec mon travail, j'ai eu l'opportunité d'avoir un départ plutôt favorable qui me permettait d'avoir à la fois du temps pour étudier le projet.
Mm-hmm.
Et puis, sorti de mon ancien tas, je ne me voyais pas faire autre chose que ça, en fait. Quand j'y réfléchissais, qu'est-ce que tu vas faire, c'était assez évident. Et on s'était dit que la région le permettait aussi, parce que comparé à d'autres endroits en France, il y a encore un petit peu de place pour des brasseries artisanales.
Ouais.
C'est pas comme ça. La région Nantaise ou la région Rhône-Alpes, où il y a déjà beaucoup de brasseries, c'est vrai qu'en Charente, il y avait la débauche, très grosse brasserie, ouais. Et du coup, je pense que ça a aussi freiné l'implantation d'autres brasseries, parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était cool, et ils le faisaient déjà très bien.
Ouais, la débauche à pignon sur rue, maintenant, effectivement.
Ouais. Et puis au final, on s'est dit, allez, on y va.
Et c'est une réussite, parce que nous, à chaque fois, avec Marco, qui est toujours pas là, quand on déguste de vos bouteilles, de vos canettes, vraiment, on se régale. Hein. Marco, il a l'habitude de dire que c'est pintable. On peut en faire des pintes, on peut les boire comme ça, n'importe lesquelles, on se fait plaisir.
Ouais, mais c'est un peu le créneau des bières qu'on essaye de faire.
Mm-hmm.
Nous, on n'est pas trop grosse bière déjà,
mm-hmm.
De temps en temps en fin de soirée, mais c'est assez c'est rare. Et c'est ce qu'on aime dans la bière, c'est de pouvoir en boire une pinte et puis pouvoir y revenir sans me dire, bon, bah, j'ai bu 15 centilitres, c'était très bon, mais c'est très
ouais, saturé. Quoi. Ouais.
Exactement, saturé. On est plutôt dans le créneau inverse, à essayer de vouloir faire des produits qui ont du goût, mais qui peuvent passer au second plan dans la soirée. Quoi. L'idée, c'est d'avoir des moments humains, d'avoir de l'échange. Et quand il y a une bonne bière en support, bah, c'est parfait, mais on essaye de pas trop...
Ah, un voleur.
Dans la surenchère des goûts et des ouais. Couches qui peuvent très vite saturer.
Pas de hopper non plus.
Ouais, ça peut arriver, hein, clairement. Ouais. Ça peut arriver, c'est toujours le risque quand on charge toujours un petit peu plus en goût.
Oh, des fois, ça donne des expériences.
Ouais, exactement.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, juste une question. En fait, vous avez une expérience de brassage.
Ouais.
Et après, qu'est-ce qui vous a fait permuter dans la brasserie? Parce que j'ai vu qu'il y avait des formations, je crois, du côté de La Rochelle,
ouais,
pour devenir maître brasseur. Est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que vous êtes concertés tous les trois et vous avez dit, allez, on y va, on s'installe et...
Alors, un mix des deux. Donc, on n'a pas de, que ce soit nous trois, on n'a pas de formation de brassage reconnue.
Vous avez l'expérience?
On a l'expérience de brassage, mais pas que. En fait, quand j'ai pu quitter mon ancien taf, j'ai dit que j'avais eu un peu de temps. J'ai eu mes 2 ans de chômage, quoi. Et j'en ai profité en fait pour faire des stages en brasserie. Parce qu'effectivement, on a la théorie sur petit volume, mais on ne sait pas comment le transférer sur du gros volume parce qu'il y a. Déjà, ça réagit différemment sur le volume, il y a la mécanique des fluides, enfin, vous ne pouvez plus porter de seau, quoi. Là, c'est pas possible de le faire à la mano, quoi. Et donc, j'ai eu la chance d'être accueilli dans des brasseries pour des stages plus ou moins longs. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre le fonctionnement sur le gros volume, quoi.
Et l'accueil est assez ouvert des autres brasseries?
Ouais, bah alors moi j'ai eu la chance de faire 3 brasseries qui m'ont accueilli vraiment. Je leur remercie encore vraiment très très bien. J'ai fait un premier stage à Marnay chez les brasseurs-cueilleurs. J'ai fait un deuxième stage chez l'effet papillon à Bordeaux, chez Jocelyn et Mathilde. Et j'ai fini chez Charles et Arthur chez Aérofab à Nantes. Voilà.
Les deux collabs, donc.
Ouais, les deux collabs, exactement. Et c'était très intéressant parce que, au fur et à mesure de ces stages, bah, j'ai pu monter en compétences sur différents points et chaque brasserie m'a apporté quelque chose de différent. Et donc, ça, c'était génial, quoi. Alors, je les avais un peu ciblés aussi pour ça. Je voulais aller chez les brasseurs-cueilleurs pour, d'un point de vue brassicole, me sortir de ma zone de confort.
Mm-hmm.
Parce que. Pas le genre de type à faire les associations naturellement que eux vont faire, donc c'était bien de sortir de sa zone, quoi.
Ouais, ouais.
Après les FEPA, bah, parce que c'est une horlogerie suisse, hein,
exactement,
c'est très très, très 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 carré. Jocelyn et Mathieu sont super cool, et puis il y a aussi un beau programme de barrique avec leur bread series, donc c'était très intéressant de voir tout ça. Et puis Charles et Arthur, parce que en plus d'avoir un matériel similaire à celui qu'on avait commandé, on a une approche assez proche sur le houblon, le travail du houblon. Donc voilà, chaque brasserie m'a apporté des choses. Et les gars après m'ont rejoint, eux ils étaient encore en poste, donc ils n'ont pas pu se former comme moi je l'ai fait. Mais du coup, on a passé la première année justement à transmettre les infos, les bonnes pratiques, monter en compétences sur la partie brassicole, et puis voilà. Donc non, pas de formation à proprement dit, en tout cas reconnue.
Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, c'est
formation avec des maîtres.
C'est plus enrichissant directement.
Ouais, bah au-delà d'être dans une brasserie, il y a aussi un échange humain. Enfin,
ouais.
Aujourd'hui, tous les gens chez qui je suis passé, bah, on garde contact. Quand on a des questions, bah, on s'appelle. On s'échange aussi les infos du marché. Ouais. Non, c'est super enrichissant, oui. C'est top.
C'est bon, madame?
Oui, c'est bon. J'en aurai une autre
pour
plus tard.
Ouais, ok. Est-ce qu'on peut parler de l'avenir? Est-ce qu'on peut parler de vos créas déjà?
Création.
Alors, les deux, ouais, c'est pas super intéressant.
Il y a l'idée, en fait, d'associer une musique.
Bah, du coup, c'était quand on a fait la recherche de la marque. Globalement, on voulait un concept déjà, et surtout on voulait un concept qui soit facilement déclinable, parce qu'on avait déjà cette idée de faire beaucoup d'éphémères, et on voulait pas à chaque fois qu'on sort une bière passer 2 heures à se creuser la tête en disant bah, comment on va s'appeler, qu'est-ce qu'on pourrait lui accoler comme image, dans quel concept on la met. Et la musique, c'est venu assez naturellement. Parce que déjà c'est quelque chose qui nous plaît tous les trois,
ouais.
Et en plus de ça, enfin c'est un concept qui est déclinable à l'infini, quoi.
Ouais.
Des musiques, il y en a partout, des playlists, on peut en faire des tonnes et des tonnes. Et donc ça nous est venu comme ça. Jukebox, on voulait un nom qui marche à la fois aussi en français et en anglais.
Ouais.
Julien a la moitié de sa famille qui est anglais. Donc voilà, ça faisait sens et après on c'était une idée de Julien de dire mais enfin on devrait aller plus loin et on va essayer de ça serait cool de, d'avoir une heure de son sur chaque bière quoi. Et carrément c'était cool donc voilà ça nous est venu comme ça. Au début on pensait pas que enfin c'était un petit plus mais en fait on se rend compte que les gens retiennent beaucoup ça et accrochent pas mal à ça. Ah, vous êtes la brasserie qui mettait une heure de son et vous faites vraiment une playlist pour chaque bière.
Ouais.
J'ai vu que vous êtes pas mal sur le tout ce qui est IPA et toutes ces déclinaisons.
Hein. Ouais. Il n'y a pas que ça. Hein.
Pas que ça.
Non, il y a de la saveur, il y a de la saison.
Peut-être qu'il peut nous répondre.
Ouais. Alors, nous, il y a deux types de bières qui reviennent relativement souvent chez nous. C'est bien sûr les bières houblonnées, de la pale ale légèrement houblonnée à la double IPA. C'est toujours à peu près au moins 50% de la prod, voire deux tiers de la prod. Mais on a systématiquement aussi une sour. Donc on fait un release en ce moment toutes les 6 semaines, composé en général de 5 produits. On a notre pale ale encore et encore qui est brassée systématiquement à chaque release, parce que c'est la bière sur laquelle il y a le plus de demandes en fait, sur les professionnels. Et après, il y a toujours 4 bières éphémères, il y a généralement 2 bières houblonnées. Soit une saveur, voire 2 sours, ou une sour et autre chose, donc une saison, un stout, voilà, ça dépend de la saison, de nos envies aussi, sur est-ce qu'on a envie de brasser ou pas. Mais ouais, on veut toujours avoir une petite sour, parce qu'on adore ça, et parce que c'est cool les sours. C'est cool, donc c'est généralement la même base maltée, la même base de recette. Donc un gros mix entre pils et blé malté. Et là-dessus, on fait varier la combinaison de fruits et d'épices. Voilà.
Cool.
Donc la base, enfin celle qui revient la plus souvent chez nous, c'est Liquid Sunshine, qui a été une sour assez importante pour nous parce que quand on a décidé de lancer la brasserie. Bon, il y a le juge de paix, le premier juge de paix, c'est les banques. Oui. Mais un juge de paix qui était aussi important pour nous, c'était l'avis des distributeurs. Parce qu'au final, on avait besoin de débouchés commerciaux avant de se lancer. Du moins d'en trouver ou d'être assuré. Donc on avait fait encore et encore Liquid Sunshine et une DDH IPA en version Brassam. On avait et on s'était posé avec, je crois de mémoire, 4 distributeurs. Mmh. 3 distributeurs. Et on leur avait fait goûter les bières pour avoir leur avis. Et il y avait Liquid Sunshine et ça avait bien cartonné. Donc on se dit, celle-ci, on est obligé de la refaire le plus souvent possible. Donc on a commencé avec Liquid Sunshine et puis après, on a gardé cette base de recettes, mais en faisant varier tout le temps. Tout le temps, les fruits, les épices, ce qu'on veut, quoi, tout ce qu'on peut imaginer.
Et du coup, je rebondis sur les distributeurs.
Ouais.
C'est mon podcast maintenant. La démarche d'aller trouver des distributeurs, c'est difficile quand on s'installe en jeune brasserie.
Ouais, c'est difficile, surtout en ce moment. Clairement, on est sur un marché en concentration. Il y a effectivement de plus en plus d'acteurs sur tout le territoire. Et donc, de plus en plus d'acteurs qui passent en direct avec... avec les commerçants, et donc la place du distributeur là-dedans, elle est parfois un peu mise à mal. Donc les distributeurs, depuis quelques mois, ont une grosse frilosité à rentrer des nouvelles brasseries en catalogue. Avant, il y a quelques années, on était sur des catalogues qui s'élargissaient au fur et à mesure, et maintenant on est plutôt dans un effet inverse où les distributeurs réduisent les catalogues. Et vraiment, sélectionne très finement les brasseries qui font rentrer pour avoir un catalogue percutant, quoi. Parce que c'est très concurrentiel. Donc non, pas évident de rentrer en distribution. Pas évident. Après, nous, on essaye d'avoir un mix au niveau de la distribution. On privilégie le local, parce que ça fait sens à la fois d'un point de vue écologique, un écosystème et de l'écosystème économique autour de la brasserie. Mais le local ne suffit pas à faire les volumes nécessaires qui permettent d'amortir l'ensemble des charges de la brasserie. Donc il faut un petit peu de distribution, il ne faut pas non plus en être dépendant, parce que le jour où ça se casse la gueule, si vous êtes 100% dépendant de la distrib, bah, ça fait mal. Mais donc il faut avoir un petit... on essaye d'avoir un mix distribution locale en direct et direct particulier à la brasserie. Et travailler autour de ce mix de distribution pour avoir un équilibre financier. Quoi.
Du coup, on retrouve partout en France en ce moment quand même un peu
Non.
Non, toujours pas.
Non, pas partout en France. On est essentiellement sur la partie Grand Ouest.
Ouais.
Parce que les distributeurs avec lesquels on travaille sont plutôt implantés dans cette zone-là. On commence à développer un petit peu notre distribution dans la partie Rhône-Alpes. Via deux distributeurs. Et puis on met l'accent sur tout ce qui est chaîne de cave à bière spécialisée, type Sarvoiserie B&B, parce que c'est une forme de distribution qui on pense à de l'avenir, vraiment pour les prochaines années. Donc ouais, Grand Ouest, un petit peu Paris, et puis l'idée ouais, c'est de d'être présent dans les grandes villes françaises.
Histoire que les gens qui écoutent le podcast puissent quand même
écouter
ce que vous faites.
Exactement. Ouais. Puis c'est toujours très cool d'aller à la rencontre de ces gens-là. On avait fait une tournée à Lille, on avait vraiment été bien accueillis, on s'était bien marré. C'est Bordeaux.
Donc vous avez fait deux collabs.
Ouais.
L'effet Pape Aérofab, et tu m'as parlé d'une troisième collab, mais qui n'est pas une brasserie. Est-ce que tu peux en parler?
Ouais, alors pour le moment, c'est... Ah oui, oh, non, alors celle-ci, non,
ah,
c'est
une... Ah, il y en a une autre.
Tu m'as eu...
Exclusivité.
Ah, il n'y a rien de fixé encore, donc je peux en parler. Mais ouais, effectivement, on a fait une collab avec un collectif de DJ d'Angoulême qui s'appelle La Ferveur. Et parce que c'est un collectif avec lequel on travaille régulièrement déjà quand on fait nos petites soirées after work à la brasserie. Et en fait, ça fait sens par rapport à notre
marque.
Jukebox, bah, pourquoi pas s'associer avec des artistes. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer parce que d'une, nous, on trouve ça cool. Et c'est sympa de faire des collabs avec des gens qui sont pas de la bière. Et en plus de ça, on aime à penser que le jour où on aura un petit peu plus de notoriété, bah, nos canettes pourraient être une plateforme pour ces artistes-là. Et on trouve ça sympa, en fait.
Et des podcasteurs.
Et les podcasteurs, exactement.
Futur collab annoncé, notre barboteur Jukebox.
Ouais.
Donc, il y a une quatrième collab à venir, mais on n'en parle pas, c'est pas ficelé.
Ouais,
mais il y en a une quatrième à venir.
On verra.
Tout va bien. Très bien, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a encore un peu de temps peut-être. T'as des questions toi du coup?
Oui.
T'es plutôt bonne en questions.
Tout à l'heure, tu parlais du local en fait.
Ouais.
Et comme j'étais pas là lors de la visite des cuves.
Ouais.
Sur l'approvisionnement justement des différents maltes, des houblons, est-ce qu'on peut en parler ou c'est secret de fabrication?
Non, c'est pas secret de fabrication. Nous, on s'approvisionne via un distributeur pour le malt près de Reims et on utilise des maltes français pour la grosse majorité. Après, il y a quelques maltes spéciaux où on s'approvisionne pas forcément en France. Mais 80% du malt, même 90% du malt, il est français. Le houblon, il est pas français. La grosse majorité du houblon, on est sous contrat avec Yakima. On essaye de mettre en place un sourcing local pour le houblon. Quand on va travailler les produits en barrique de fermentation mixte, pour faire un produit 100% local. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Mais bon, c'est une minorité dans la production parce qu'on n'a pas énormément de barriques. Comparé à ce qui sort de l'inox, c'est pas les mêmes volumes. Mais sur le malt, à terme, on aimerait bien se rapprocher d'un sourcing encore plus local avec la malterie de l'Ouest à côté de Saint-Jean-d'Angély, qui n'est pas trop loin de chez nous. Mais eux, ils ont pris un virage, ils font essentiellement du bio. Un petit peu de conventionnel, mais essentiellement du bio, et nous on n'est pas certifié bio. Aujourd'hui ça fait pas encore sens de s'approvisionner là-bas.
C'est plus cher aussi, enfin la vignette bio.
Tous les ingrédients coûtent beaucoup plus cher. Hein. Il faut imaginer faut imaginer 50% de plus au niveau du prix.
Par rapport aux houblons, il y a des houblons français, mais qui sont du côté d'Alsace et tout ça, où c'est plus des pils, je suppose, ou du coup pas trop.
Non, il y a de plus en plus de brasseries qui remettent le houblon français sur leur production, et notamment sur des styles plus à la mode. Je pense notamment à Cambier, qui fait une French Neipa avec du houblon français, du coup, et qui est juste super cool.
Une French New England.
Ouais, c'est ça. French New England avec du et c'est plutôt cool. On en voit de plus en plus qui essayent de remettre le houblon français au centre du débat, quoi. Donc c'est une bonne chose. Après, on ne s'est pas trop penché au problème. Je t'avoue qu'il faudrait qu'on regarde si au niveau de la capacité d'approvisionnement, c'est aussi des choses qui sont faisables de leur côté.
Ok, vous avez encore pas mal de temps devant vous.
Ouais. On essaye d'avancer de manière structurée au maximum, mais c'est pas facile. On est très vite pris dans le bouillon du truc à essayer d'avancer.
Il faut brasser et puis il faut penser aux autres choses. Donc
faut essayer d'avoir un petit temps d'avance sur ce qu'on veut brasser, dans quelle direction on veut emmener la brasserie, voilà, ces choses-là, quoi.
Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un sujet sur le sans gluten.
Ouais.
Vous y pensez, vous à...
Pour le moment, pas du tout. Non. On ne s'est pas du tout penché au problème.
Ça a l'air d'être complexe. Moi, j'ai vu qu'il y avait deux façons d'égluténiser, qui a l'air d'être un complexe mécanique ou chimique et ou chimique assez complexe.
Ouais.
Et sinon, retirer tout ce qui est malt de céréales et du coup brasser avec du sarrasin, avec du millet, etc. Ça a l'air d'être.
Ouais, c'est un peu chaud. Ouais,
ouais, ça a l'air d'être assez complexe.
Non, c'est une question purement intéressée parce qu'on a un ami qui ne peut pas boire, qui ne peut pas consommer du tout.
De toute façon, il n'écoute pas de podcast, alors il s'en fout.
Mais une petite bière sans alcool, vous en avez eu ?
Ça, on y a pensé, on ne l'a pas fait, mais clairement, ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement sur la table.
La Baby Easy de chez La Débauche est excellente sans alcool.
Ouais.
Très réussie. Je ne sais pas comment ils la font, s'ils retirent l'alcool ou s'ils brassent d'une autre façon. Je pense qu'ils retirent l'alcool parce que... Enfin, après, j'en sais rien, mais... J'ai l'impression que celles qui sont brassées de telle façon à ne pas avoir d'alcool de base, elles sont trop sucrées.
Ouais. Ouais, non, c'est très difficile à faire une bonne version d'alcool. Mmh. C'est vraiment super difficile et je pense que le marché va plus vers de la 0,0 que de la 0,8 en plus. Et c'est encore plus compliqué de faire de la 0,0.
Ouais.
Donc, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait bien sortir à un moment, ou de moins s'essayer. Essayer à un moment donné. Ou les low ABV, les bières à 2,5, les micro IPA, les choses comme ça, c'est plutôt cool.
C'était quoi ? C'était une smash, une fois que j'ai vu aussi, et c'était pas.
Ouais, mais elles sont pas forcément pas fortes.
Ah
oui ? La dernière fois que j'ai vu une smash, elle était à 5.
Ouais, single malt, single hop. Hein.
Ouais. Et.
Non, je dis. Après, ça va peut-être faire sexiste, mais. En tant que femme, des fois, moi, j'ai juste envie d'une bière rafraîchissante et pas forcément forte en taux d'alcool.
Oui, mais il y en a déjà plein, des bières qui ne sont pas forcément fortes et qui ne sont pas forcément à zéro et qui sont rafraîchissantes, etc.
Oui, mais le marché, maintenant, c'est plus des bières à 6.
Non, pas forcément.
5 et 7.
C'est vrai qu'en France, faire une bière en dessous de 4 degrés, c'est compliqué. En tout cas, commercialement. Il y a beaucoup moins de rotation sur les. Bon, il y a toujours des exceptions à la règle, mais on se rend compte que quand on sort une bière qui est en dessous de 4 degrés, tout le monde tire un peu la tronche, ça va pas partir et tout. Donc, intuitivement, on est plus à faire des bières entre 5 et 6.
Ça va, 5 et 6, franchement. Oui, quand ça a pu se taper, mais bon, comme elles sont pintables, on ne descend même pas des fois.
Ben là, on avait fait la cold IPA, là, on collab avec les Fepap et
c'était... Écoutez, hein.
Ça faisait 7 degrés et clairement, tu...
On les sent pas, ça, on les sent pas du tout.
C'était dangereux.
Là.
C'est vraiment dangereux.
Ah, ouais.
Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut faire des bières qui soient avec un peu d'alcool, mais qui n'altèrent pas la durabilité du truc, quoi.
Mais vous avez quoi dans les tuyaux, là, qui va sortir ?
Voilà, on sort le prochain release en début juillet. On a, On a une nouvelle DDH IPA qui va s'ajouter aux autres. On a une DDH Pale fermentée avec Hornidal, Beck, Mosaic Simcoe. On a bah, toujours notre Pale Ale. Ensuite, on va avoir une sour. Sour mangue, abricot et piment.
Ok.
Voilà, on avait fait décaler Catane, qui était une sour passion piment qui avait super bien marché. Les gens nous redemandent quand est-ce qu'elle revient. C'est censé être une éphémère. Donc là, on va continuer la série piment avec un fondé mangue abricot. Et on a une gauze au poivre qui va sortir.
Cool. Voilà.
Se marrer à un moment donné à se dire on va faire une bière sel poivre, ben voilà, une gauze au poivre. Donc ça sort au début du mois de juillet.
Très bien. Voilà. C'est de l'éphémère aussi, sauf.
Ouais, sauf l'appel, c'est de l'éphémère, ouais.
On va vite les trouver, quoi.
Ouais.
Et du coup, pour ce soir, la sélection de bière, est-ce que ça peut être comment ?
En fonction des stocks qui nous restaient. C'est transparence. Franchement, on s'est fait un peu... c'est normal, hein, c'est la période, mais on s'est fait un peu dévaliser. On avait mis des fûts de côté, des produits de côté. Mais clairement...
Les poivres passion, ça a l'air intéressant, ça.
Ouais, en gros, c'est une baie et qui donne des saveurs exotiques. Après, c'est suivant la sensibilité de chacun. Je sais que Loïs, pour lui, c'est passion à fond. Quand il sentait le poivre et même il le retrouvait à la dégustation. Mmh. Moi, j'ai plutôt ma perception des notes de tonka. Je pense que le côté tannique du poivre amène quelques notes pour moi des tonka. Et on aime beaucoup travailler les poivres, en fait. C'est vraiment un truc qui est comme le houblon. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de perspectives au niveau des goûts. Et on kiffe bien. Donc ouais, non, plutôt en fonction de ce qui nous reste en stock.
C'est très bien.
Bon, on entend qu'il y a les balances qui commencent à se faire. Je pense que c'est bientôt la fin. J'ai juste une dernière question qui vient de me venir comme ça. Avec mon ami Marco, on a fait des Gruit Ale, donc des bières aux gruits.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, d'essayer de faire ces mélanges de plantes et de sortir du houblon, même si dans le gruit il peut y en avoir?
Ouais, ça m'intéresse, mais pour le moment, on n'est pas équipé pour le faire.
Ouais.
Il faut que... Là, on a une cuverie pour travailler les bières qu'on sort actuellement.
Ah.
Mais il faut qu'on s'équipe pour la partie fée avec des fermenteurs, peut-être des cuves pour faire justement ce genre d'expérience. Mais en fait, à brasser, il n'y aurait pas de problème.
Ouais.
C'est plus à fermenter. Après, on veut avoir un matériel dédié pour ce genre de produit.
Ok.
Et pour le moment, on n'est pas équipé.
On a un an.
Voilà, exactement. Bon. Exactement.
Et on a un an, je trouve que c'est déjà une super réussite. Ouais, en tout cas, nous, on se fait vraiment plaisir à chaque fois qu'on vous déguste. On est content d'avoir les musiques, d'avoir les illustrations et d'avoir ces bières peintables. En tout cas, je te remercie. Ça, c'est vraiment vous. Journaliste à moi de ce que je fais là. Et je te remercie de nous avoir reçus. On est très contents. Ça s'est fait un peu à l'arrache.
Non,
mais c'est cool. Ça devrait sortir sous peu l'épisode une fois que je l'aurai monté. Et je pourrais.
Tu nous fais signe.
Avec plaisir. Je vous enverrai un petit message sur Instagram.
On écoutera, et voir puis, si ma voix paraît pas trop ridicule sur un podcast.
Alors, je pense que ça ira. J'espère que le son est bon. Normalement, c'est autoguin et tout. C'est le premier test. Mais voilà. Écoute, je te remercie beaucoup.
Ouais, merci à toi.
Et puis on se voit tout à l'heure pour les dégustes.
Yes,
bon courage pour la préparation. Et puis ça va faire 10 heures de folie.
Ouais, ça va être une longue journée.
Allez, à plus.
Merci.